Chaque semaine, c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver. C'est pas Starsky Hutch, mais c'est Philippe et Diego aujourd'hui.
Si, Starsky Hutch, il a la moustache.
Ouais, ouais,
qui c'est qui avait la
j'ai
moustache?
J'ai le flingue dans la poche, comme d'habitude.
Bonjour Philippe Cybercas, bonjour Diego Arabal.
Bonjour les deux Philippe.
Bonjour à tous les deux. Alors, on va parler bien sûr de littérature. Alors, c'est chacun son tour un peu qui prépare les émissions, parce que c'est pas toujours le même qui travaille.
Voilà.
Les deux travaillent, et vous, c'est Diego, c'est vous qui allez travailler aujourd'hui, parce que vous avez, je crois, Patrick Amand, la personne qui est invitée aujourd'hui.
Oui.
Vous l'avez déjà reçue sur Radio Présence.
Nous l'avons déjà reçue pour d'autres romans, notamment son dernier roman qui s'appelait Les Lampourdes de Magellan.
Oui.
Très très beau roman que je recommande quand même de lire. Mais aujourd'hui, nous le recevons pour Merci la Résistance, qui est un recueil de nouvelles noires aux éditions Caïman. Donc, bonjour Patrick.
Bonjour Diego, bonjour tout le monde.
Bonjour Patrick.
Alors, vous connaissez notre fonctionnement maintenant, puisque vous êtes un de nos habitués.
C'est vrai.
Donc, aujourd'hui, je vais présenter le recueil, puis nous allons débattre autour du recueil que vous dirigez, que vous avez publié, donc, en tant que directeur, aux éditions du Caïman, il y a quelques semaines.
Voilà.
Alors, il s'agit de « Merci la Résistance ». Ce sont 28 nouvelles rédigées par autant d'auteurs venus pour la plupart du noir. Certains autres textes sont repris, notamment un poème truculent de Robert Desnos, mort en déportation. Il s'agit d'un florilège qui couvre les 4 années noires que vécut la France entre 1940 et 1944. Nous y côtoyons les textes de Didier Deninx, qu'on ne présente plus, de Frédéric Bertin-Denis ou de Marion Chemin. D'autres auteurs plus proches de nous, comme Pierre Domangès de Tarbes, Thomas Jiménez de Toulouse, mêlent leurs plumes à celles de Michel Ambarek, Maria Miscitelli ou Philippe Paternoli. De l'action spectaculaire à l'humble transmission d'une information, de la bravoure des résistants face à l'ennemi au sadisme des combattants de la dernière heure, ce recueil offre un riche panorama de cette époque tragique que nous avons peut-être cru trop vite révolue, alors que se dressent partout en Europe aujourd'hui les spectres de la haine féroce et de l'intolérance imbécile. De beaux textes à picorer, à savourer, à méditer. Merci la Résistance, édition du Caïman, sous la direction de Patrick Amand. Patrick, qu'est-ce qui vous a amené à réunir cette belle brochette d'auteurs autour de ce projet?
Comme d'habitude, très beau résumé, Diego, de ce livre.
Merci.
Donc, en fait, c'est la continuité de notre collection Noir Nouvelle qui existe depuis 10 ans, là, en fait, le 10e anniversaire, où... tous les 2 ans environ, en rythme tous les 2 ans, les éditions du Caïman, nous publions donc un recueil de nouvelles en lien avec un thème historique que l'on souhaite commémorer, célébrer, c'est toujours embêtant ces termes, mais qu'on veut mettre en avant. Donc là, on est en 2024 et 80e anniversaire de la libération de Paris. C'était plus au départ axé sur la libération de Paris, mais ça aurait été peut-être un peu redondant. Donc ça a été étendu à la résistance et à toutes les formes de résistance, puisque les autrices et les auteurs avaient le choix également de parler d'une résistance plus contemporaine et éventuellement une résistance dans un autre pays, puisque on a le texte, comme vous l'avez souligné, de Maria Miscitelli qui parle de la résistance en Italie.
Mmh,
donc voilà, l'idée c'est toujours carte blanche pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune censure, j'ai jamais refusé un texte. Il y a parfois des réajustements par rapport à des considérations historiques. Mais chacun est libre de choisir et c'est pour ça, par exemple, qu'on a 2 textes sur les femmes tondues à la libération. Mmh. Donc là, du coup, on ne dit pas merci à la résistance, mais ça permet de varier. Et puis, ça fait partie de l'histoire aussi de la libération de Paris et de la France, le cas des femmes tondues.
Oui, qui était souvent tendu d'ailleurs par des résistants de la dernière heure.
Oui,
pas que,
ouais,
mais
oui,
bon.
Pas que, mais c'est surtout je pense à la nouvelle de Élise Dreur, pardon, excusez-moi, qui est illustrée par une photo originale hein, qui n'a jamais été publiée, qu'on a récupérée par par des personnes qui avaient fait cette photo, un grand-père qui avait fait cette photo pendant la libération, ouais. On voit cette femme tendue avec une croix gammée peinte sur le front, bon, c'est assez terrible, et puis ces résistants à côté, jeunes, qui sourient, qui rigolent, alors que vraiment le combat n'était pas là, quoi.
Tout à fait. Bon, certaines ont néanmoins collaboré de façon très active. Il me semble qu'il y a eu une controverse il y a quelques années d'une auteure qui a essayé de réhabiliter une de ces femmes tondues qui avait, elle, donné un certain nombre de résistants et fait fusiller un certain nombre de personnes qui avaient résisté. Donc, je veux dire, il y a eu beaucoup d'exactions, mais il y a eu aussi des châtiments, je ne dirais pas qui étaient mérités, mais qui étaient logiques dans la sortie de cette période délicate, quoi. Oui, parlez-nous un peu de pourquoi avoir choisi ce texte de Robert Desnos, maréchal du Conneau.
Ouais. Bon, alors dans les recueils, j'aime bien à chaque fois avoir un, deux, trois poèmes, voilà, c'est en fonction des rencontres qui sont faites, là, notamment Sylvain David qui publie un poème, là, qui est un jeune poète qui n'a jamais publié, mais je pense qu'il publiera un jour parce qu'il écrit des textes très beaux. Et ensuite, je connaissais un peu, mais je suis tombé sur ce texte de Robert Desnos, donc effectivement en argot, et qui parle du maréchal Pétain, de l'appelant maréchal du Conneau. Après, j'ai eu la chance d'entrer en contact avec l'ayant droit de Robert Desnos, que j'ai appelé, et je lui ai parlé du projet, et qui m'a donné un oui franc tout de suite pour publier ce texte. Et je trouve que ça agrémente ses poèmes. Ce poème agrémente vraiment le recueil de par son ton et son humour. Et illustré, là, dans les illustrateurs, illustratrices que je contacte, le dessinateur Crocus, hein, qui est bien connu dans la presse satirique, j'ai pensé à lui tout de suite et je lui ai envoyé le texte. Et il m'a dit oui, moi j'illustre le maréchal du Conneau, ce qui fait avec brio dans le recueil.
Oui, tout à fait. Vous mêlez toujours à la fois les textes et de l'iconographie, puis aussi de temps à autre des bandes dessinées. Alors pas forcément dans ce recueil, mais j'ai le souvenir d'autres recueils où la présence de la bande dessinée est extrêmement importante, je pense notamment à Brigadiste. Hein.
Oui, voilà, oui. Alors c'est vrai que malheureusement, on avait un de nos fidèles de notre collection, Fabien Lacaffe, c'est lui qui avait initié ça d'ailleurs, hein, Fabien Lacaffe, qui m'avait dit, mais moi je me sens pas trop d'écrire Noël, est-ce que je peux faire une bande dessinée? Je lui ai dit, oui, écoute, c'est lui qui a inauguré ça, malheureusement, qui est décédé en 2020 et qui a pas pu participer à nos autres recueils. Et après, c'est vraiment en fonction des personnes contactées, voilà, il y a certaines années des personnes disponibles, d'autres pas. Donc là, effectivement, il n'y a pas de bande dessinée, mais il y a, je ne sais plus combien d'illustrateurs, illustratrices, une vingtaine également, je crois que c'est 22, qui font pratiquement des dessins originaux ou des dessins qu'ils avaient faits il y a quelques années, qu'ils réadaptent ou qui collent bien avec le thème.
Vous avez un panorama assez large des différents faits de résistance, puisqu'on va à la fois lire des histoires qui se situent à Paris, d'autres qui se situent dans le Morvan, d'autres dans le sud de la France. C'était un choix de contacter les auteurs pour travailler sur ces différents éléments, sur ces différentes régions ?
Non, alors là, c'est vraiment le hasard, et c'est en fonction de chaque personne. Je sais par exemple que Maurice Gouirand, à chaque fois qu'il est sollicité, va lier le sujet à Marseille. Donc que ce soit la Commune de Paris, la décolonisation. Je fais un peu la même chose, hein, puisque je le lis à ma commune Poitiers. Marion Chemin, je sais qu'elle aussi a été, voilà, voulait une nouvelle qui se passe dans sa commune en Normandie à Isigny-sur-Mer. C'est vraiment en fonction des affinités. Bon, Michel Ambarek aussi, c'est avec José Arthur qu'il a connu, ça se passe dans son coin. Voilà, c'est vraiment le choix. Après, il y a des personnes qui vont parler, bon, Rachel Mazui, qui est historienne, va parler d'André Clodo, un peintre qui était en Bourgogne, mais qu'elle connaît par affinité, par histoire personnelle, qu'elle connaissait par histoire personnelle. Voilà. Donc c'est vraiment le choix. Le choix des autrices et des auteurs. Philippe Paternoni, lui, a parlé de la résistance de son père dans le Morvan, vous le citiez tout à l'heure.
Oui, d'ailleurs, je voulais aussi vous poser une question par rapport à ça. j'ai remarqué qu'au moins 3 ou 4 des auteurs font référence à des histoires familiales et à des documents et reconstituent ce qui a pu se passer à travers cela. C'était une des consignes ou c'était tout simplement parce que les auteurs avaient envie de parler de ce moment un peu particulier pour leur famille?
Là, c'est vrai, c'est vraiment très libre, mais c'est-à-dire que, bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile quand on traite un sujet comme la Commune de Paris. Sur le dernier recueil sur la décolonisation, là, on avait des souvenirs familiaux. Mm-hmm. Et là, bon, c'est encore mm-hmm. Même si on est ces 80 ans après, il y a une transmission qui est encore assez proche. Donc, effectivement, que ce soit Philippe Paternoli ou le regretté Geoff Brigandet, qui est malheureusement décédé au moment où il nous a transmis son texte.
Oui.
C'était vraiment la volonté de parler de la famille. Frédéric Bertin-Denis aussi, qui rend hommage à son oncle. Mmh. Donc, je pense que c'est des souvenirs encore frais. Et effectivement, il y a cette volonté de rendre hommage à, quand on a... des résistants dans la famille, voilà, le titre aussi était bien emprunté, merci la résistance.
D'accord. Vous avez des projets par rapport à l'année prochaine, à un nouveau recueil, qu'est-ce que ça pourrait être?
Alors là, nous, on est sur 2 ans, on fait ça tous les 2 ans, mm-hmm. sauf effectivement les années paires, sauf effectivement... En 2021, où c'était le 150e anniversaire de la commune, on ne pouvait pas faire l'impasse, donc on a fait 2020, 2021, 2022. 2024, là, on serait parti plutôt sur 2026.
2026, oui.
Pour l'instant, il n'y a pas encore de projet bien défini. On vient juste de terminer là. Le livre est publié, donc c'est maintenant une nouvelle aventure, que ce soit
la diffusion,
des dédicaces, la diffusion médiatique.
Oui.
J'avoue qu'on souffle un petit peu. et on va se préparer tout doucement et puis c'est pas un mystère, les éditions du Caïman, comme beaucoup de maisons d'édition de petites structures indépendantes ne roulent pas sur l'or et l'économie de cette maison d'édition est très fragile, donc quid dans un an, quid dans 2 ans, voilà, on va quand même se projeter, mais on va prendre le temps de savourer ce nouveau pavé.
Ça peut être l'occasion aussi de faire des choses en commun avec d'autres petites maisons d'édition.
Tout à fait, tout à fait. Ce que nous avons déjà fait et ce qu'on refera, bien évidemment.
Philippe? Serait-ce un appel du pied, Diego Arrabal?
Disons que la dernière fois que nous avons essayé de faire quelque chose ensemble, les éditions du Caïman étaient en mauvaise posture financièrement, ne pouvaient pas trop participer. Et c'était vraiment dommage et nous avons regretté... que ça ne puisse pas se faire. C'était à l'occasion du cinquantenaire du coup d'État de Pinochet, donc Chili 1973. Malheureusement, les éditions du Caïman n'étaient pas en mesure de pouvoir nous accompagner. Nous avons regretté, mais on comprend très bien parce que ce n'est pas toujours évident.
Là, il faut bien dire qu'on a... On a dû faire un appel, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur une caisse solidaire sur Internet, là, qui se banque, là, je ne sais plus, sans faire de pub, pour pouvoir publier, avoir un peu de trésorerie d'avance, pour pouvoir publier les livres de 2024.
Oui.
Notamment, merci la résistance, quoi. Et on a eu quand même, je tiens à la remercier, la directrice adjointe du quotidien Libération, Alexandra Schwarzbrod, qui est également autrice de Polar, qui nous a fait un petit billet dans l'IB, un appel du pied, qui a ensuite été relayé sur France Inter dans une grande émission du midi. Et c'est vrai qu'il y a eu d'un seul coup un appel d'air et on a pu récolter un peu de fonds d'avance pour pouvoir publier ces livres, qui nous permet d'avoir un déroulé sur toute l'année 2024 et début 2025 au moins. C'est pour ça que là, c'est difficile de s'engager sur 2026, même si on va travailler sur cette échéance.
D'accord. Philippe veut poser encore.
Tant que vous parlez, Patrick Amand, de la situation financière là, des maisons d'édition, c'est quoi la situation des petites maisons d'édition comme les vôtres aujourd'hui, là, en 2024, on parle de crise économique, tout ça. Est-ce qu'il y a une crise économique avec une vente du livre qui souffre, etc.? Comment vous vivez les choses?
Il y a déjà eu l'augmentation du coût du papier, l'augmentation générale de tout, que tout le monde a connu, qu'on essaie de ne pas trop répercuter. Parce que si le livre est à 25 euros, personne ne va l'acheter. Et également sur la diffusion, c'est-à-dire que c'est une maison d'édition qui est rarement invitée dans des grands événements, on va dire. Et dans les librairies, et les libraires nous le disent, hein, les libraires, les grandes maisons d'édition sortent la grosse artillerie. Ouais. Il faut qu'ils mettent en avant, quand il y a un auteur très connu qui sort un livre, il faut qu'il y ait la devanture qui soit tapissée de ce genre de livre. Et il n'y a pas de place pour les plus petits, quoi. Mmh. C'est ça. Il y a une production très importante. Et alors, on a beaucoup de librairies hein, qui jouent le jeu, là, je pense. Il y en a énormément, mais en citer une, c'est la librairie La Tache Noire à Strasbourg, parce qu'ils ont connu de grandes difficultés.
Oui, de Eric Schulz. Voilà.
Voilà.
Très belle librairie.
Voilà, et donc Eric, lui, nous met en avant régulièrement. S'il avait plus de moyens, il nous inviterait à des débats, il n'y a pas de souci. Mais voilà, autrement, c'est un combat permanent. Et on est une structure non professionnelle, c'est-à-dire que le directeur Jean-Louis Nogaro est un actif, est professeur des écoles. Moi, pour la collection, je travaille également, je travaille à la mairie de Poitiers. Et on n'a pas de commercial, on n'a pas de chargé de communication. Alors, on a un diffuseur, mais on peut pas faire face aux grosses maisons d'édition.
Oui, oui. Oui, d'autant plus que depuis quelques années, il y a une politique relativement hégémonique de la part des grosses maisons d'édition.
Oui.
Que lorsqu'elles proposent une tête de gondole, donc un de leurs auteurs qu'ils veulent mettre en avant, ils exigent souvent des libraires. Qu'ils prennent en plus 5, 10 ou 15 autres titres qu'ils vont mettre en avant, ce qui fait que le libraire, lui, se retrouve sans place pour les petites maisons d'édition. C'est une politique de certaines grosses maisons, dont je ne dirai pas le nom, mais une politique de certaines grosses maisons qui vise à étouffer des petites maisons qui risqueraient de leur faire de l'ombre en présentant quelques ouvrages. Alors, Pas en termes de volume, mais en termes de possibilité de sortie, qui risquerait de la faire de l'ombre en présentant des ouvrages que des lecteurs pourraient aller chercher.
Oui, pardon.
J'ai une question, Patrick Amand et Diego Arrabal, justement, là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de la décision aujourd'hui pour les maisons d'édition, les plus grosses maisons d'édition en tous les cas, de pouvoir faire donc de la publicité donc au sein des grands médias, parce que si je comprends bien, ça va rajouter de l'hégémonie à l'hégémonie.
Ça va rajouter, oui. La majorité des maisons d'édition indépendantes, hein, parce que c'est comme ça que nous sommes, les petites et indépendantes, hein, sont totalement opposées à cette politique de diffusion sur les antennes, quoi, parce que c'est pas un produit comme n'importe lequel, et ça ne peut favoriser les très grosses maisons d'édition qui peuvent se permettre d'allonger sur la table les sommes nécessaires à un spot publicitaire. Un spot publicitaire de 30 secondes à une heure de grande écoute, c'est entre 50 et 100 000 euros.
C'est clair que
100 000 euros, c'est, juste pour vous donner une idée, c'est le chiffre d'affaires de Arcane 17 sur l'année.
Ouais. D'accord, ok. Donc c'est une année de chiffre d'affaires que vous passeriez pour 30 secondes de...
Or, une fois.
Ça donne une bonne perspective.
On peut faire de la pub, hein. Faites le chèque.
Je préfère vous faire le chèque à vous.
Voilà, c'est le radio-don, c'est ça, Philippe Hubert. C'est le radio-don, là.
écoutez, merci Patrick d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes obligé de partir parce que là, vous nous avez dit, je suis un peu coincé, donc on va vous libérer. Et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver pour un de vos romans qui devrait sortir. Alors, qu'est-ce que vous avez comme projet? Puis après, on va simplement vous dire au revoir.
J'en ai deux sur le feu, mais j'ai du mal à écrire deux trucs en même temps.
Oui, et c'est là, difficile, sauf si vous écrivez de la main droite et de la main gauche.
Oui, voilà. Et surtout l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit arrivent pas à travailler en même temps ensemble. J'ai plus un projet qui n'est pas trop polar. Je suis c'est en lien avec un sujet que j'ai évoqué dans un des polars, c'est toujours l'écrivain journaliste Jean-Richard Bloch.
Oui.
Voilà.
C'était la lettre oubliée, c'est ça ? Le manuscrit improbable, voilà, c'est ça.
Vous étiez pas loin.
Oui, j'étais pas loin.
Et là, du coup, ça serait moins polar, mais ça serait raconter un petit peu sa vie d'une manière originale, alors pas une biographie, parce que j'en suis pas capable, mais raconter sa vie à partir de sa maison de Poitiers, la Mérigotte qui était rénovée, à travers à travers ce qui s'est passé dans son bureau. Voilà, je suis un peu à la gestation, j'ai commencé l'écriture, je fais un essai, c'est pas du polar, mais bon, pour l'instant je me fais plaisir, donc déjà c'est le principal, et ensuite si ça aboutit ce projet, je pense que ça pourra faire plaisir à certaines lectrices et lecteurs.
Eh bien écoutez, ce sera avec grand plaisir que nous vous lirons et éventuellement que nous vous inviterons à nouveau pour en parler.
J'y prends goût.
Mais c'est très bien.
Vous êtes le bienvenu, Patrick.
Je sais, super.
Au revoir Patrick et merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Donc on répète, c'était Merci la résistance, un recueil de nouvelles aux éditions du Caïman. Au revoir.
Merci, au revoir Patrick.
Au revoir.
Voilà, merci beaucoup à tous les deux, hein, Fidoni, Diego Rabal et puis bien sûr Patrick Amand, hein, qui était votre invité cette semaine.
C'était mon invité cette semaine et j'espère pas la dernière fois.
Non, parce que c'est toujours très intéressant. Vous êtes très, très, très guerre en ce moment, hein, retour à la guerre, première guerre mondiale.
On est quand même cette année en 2024, on va fêter le 80e anniversaire du débarquement.
Du débarquement, la libération.
Donc c'est difficile. Je dirais de passer à côté. Rappelez-vous, on fait cette émission depuis près de 11 ans. Et entre 2014 et 2018, on avait fait plusieurs émissions consacrées également donc à la Première Guerre mondiale. À l'époque, on avait même eu le Salon du Livre Profane et Sacré de Lourdes qui existait avant la Covid, qui avait été aussi consacré effectivement à ce thème-là. Je pense qu'on peut difficilement passer à côté. Et je reprendrai ce qu'a dit Patrick Amand, notre invité tout à l'heure. Il a dit « j'aime pas trop parler de commémoration ». Je préfère dire on met en avant un sujet. Voilà. Là, on met en avant effectivement des sujets qui ne sont pas neutres du tout, quoi. Voilà. Et en tout cas, qui nous parlent autant à Diego Rabal qu'à moi-même.
C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Du coup.
Eh bien, merci à vous de nous ouvrir les antennes.
11 ans, que vous nous donnez la porte pour qu'on rentre à Radio Présence. Voilà. Merci, Philippe Subercazin.
Merci à vous, Philippe.
Et puis, quand on parle des antennes, mon cher Diego, vous avez sûrement connu à l'époque les grandes ondes. Et puis, vous avez connu après en 80 la FM.
Ah ouais, j'ai connu les grandes ondes. J'ai connu la FM bien avant 1981 et la libéralisation des ondes.
Mais 1981, Diego Rabal. Je devenais arrière-grand-père.
J'étais déjà arrière-grand-père. Non, moi j'ai connu la période des radios pirates à l'époque.
Oui, tout à fait.
Avant la libération. Voilà, et les courses.
Et lui-même était un pirate, vous avez vu la queue de cheval, voilà. Le catogan, il lui manque juste, vous savez, le bandeau autour de la tête.
Ouais, ouais. Et puis j'ai le perroquet, donc ça va.
Voilà. et la moustache.
C'est pour les gens qui essaient de mettre un visage sur une voix. Diego Rabal. Oui, vous avez quand même connu les grandes ondes à l'époque, et puis après la FM.
J'ai connu les grandes ondes.
Et tout ça pour venir vous dire qu'aujourd'hui, vous parlez dans la radio et vous êtes maintenant en numérique.
DAB.
Voilà, vous êtes
en
DAB+.
Voilà.
Ben voilà. Voilà, donc,
comme d'hab.
Comme d'hab. vous êtes là dans les évolutions de la radio.
Tout à fait, oui, c'est vrai.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
Eh bien, écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.